Marchand, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir en compagnie de Colette Brunschvicg. Colette Brunschvicg, vous êtes peintre, auteur d'une œuvre remarquable et magnifique qu'on peut classer dans l'histoire de la peinture contemporaine comme une œuvre abstraite, quoique on reviendra sur la couleur, l'évolution de votre œuvre. Vous êtes né en 1927 au Havre. Vous avez décidé de venir vivre à Paris après la guerre en 1945. Et vous avez commencé à exposer dès les années 50. Mais auparavant, avez-vous eu une enfance et une éducation artistique dans cette ville du Havre, dans les années 30 ?
Je pense que le fait d'être né au Havre, d'avoir passé mon enfance au Havre, a été quelque chose d'absolument définitif concernant mon travail de peintre. J'ai gardé la mémoire des toutes premières choses qui m'ont éveillée à ce que je voyais. Et la vie a voulu que j'ai passé mon enfance au Havre, que j'ai quitté le Havre au moment de la guerre. J'avais donc 13 ans. Je passais à l'adolescence. Et l'adolescence a été pour moi la guerre. L'après-guerre a été la jeunesse. Et c'est maintenant la vieillesse. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de lien entre le temps et l'endroit dans lequel j'ai habité. Et d'avoir habité au Havre a été pour moi quelque chose d'absolument essentiel, à tous les niveaux. Si vous voulez que je dise la mémoire que j'ai gardée des premières choses que j'ai vues et qui ont été importantes, j'ai été outrée. Le premier automne que j'ai vu, où je me marchais dans la rue et sur des feuilles mortes, que c'était une sorte de merveille sur laquelle on marchait sans regarder ce que c'était. Et la couleur des feuilles mortes était pour moi un tableau que je considérais comme honteux de laisser par terre. Ça, c'était mon premier souvenir de ce que je voyais. Et le deuxième, la première fois que j'étais à l'école, on m'a donné un petit cahier avec des carreaux pour dessiner ce que j'avais envie de dessiner. Et je me rappelle avoir dessiné une fleur, une primevère, et j'ai fait une feuille de primevère. Et j'ai eu un bonheur extraordinaire dont je me souviens encore maintenant, d'être arrivé à dessiner une ligne aussi merveilleusement agréable à faire que la feuille de primevère. Je vois encore l'endroit et je pense que j'ai eu un éveil profond à la vision parce que je me rends compte encore maintenant et je pense que c'est quelque chose qu'on a au début de la vie, le rapport à la vision. Quand j'ai la mémoire d'événements importants de ma vie, je dis bien seulement des moments importants de ma vie, la mémoire des moments importants, dans le souvenir que j'ai, je vois ça avec la lumière qu'il y avait. Et je pense que ce n'est pas commun, la mémorisation lumineuse. C'est ce que je peux vous dire en ce qui concerne mon enfance au Havre. Maintenant, la raison pour laquelle je pense qu'il y avait quelque chose de particulier qui m'a véritablement été très très important pour moi. Je suis d'origine alsacienne. Mes parents habitaient en Alsace. Et mon père, à la suite de toute une histoire qui lui était personnelle, est venu s'installer au Havre et il a été importateur de café au Havre. Et nous allions tous les ans voir ma grand-mère qui habitait en Alsace. Et c'était l'occasion d'un quelque chose d'absolument surprenant. Parce que le train, nous allions en train, la gare du Havre s'arrêtait. Et quand nous partions sur la gare de Colmar, il n'y avait pas d'arrêt. Il y avait des ponts, on changeait de train et ça continuait. Tandis que lorsqu'on était au Havre, on arrivait, le train s'arrêtait et il n'y avait plus rien à partir de cet endroit-là. Et chaque fois que j'habitais là, que l'on revenait dans cet endroit, j'étais littéralement émerveillée parce que quand la terre s'arrête, vous aviez la possibilité de voir la mer, la terre qui s'arrête, le ciel par-dessus, et à l'intérieur, vous ne voyez rien de pareil. En plus, il y avait du vent. Et je me souviens vraiment que les 12 années que j'ai fait de la navette entre le là et là, chaque fois, j'arrivais sur Paris. On changeait à Paris, il n'y avait pas de ligne directe. Alors il fallait passer de la gare Saint-Lazare à la gare de l'Est. Et j'avais l'impression que le monde devenait inerte. Il n'y avait plus de vent, alors que le vent faisait bouger tout. Et là-bas, c'était tout bougé. La mer bougeait, le ciel bougeait, il pleuvait tout le temps. C'était un endroit vivant. Et j'ai gardé le souvenir, justement, de cette chanson qui disait « C'est la Normandie qui m'a donné le jour ». Je sais que vous êtes normande aussi. Et je sais que vous pouvez très bien comprendre cette chose, mais pas de la même façon que moi, parce que vous n'étiez pas né à ce moment-là et vous n'avez pas connu cette fragmentation temporelle. Vous avez connu l'après-guerre. Moi, j'ai connu la paix, la guerre et l'après-guerre. Et ce n'est pas non plus n'importe quoi. Lorsque je retourne au Havre, j'y retourne, il n'y a plus personne que je connaisse vraiment, sinon le cimetière dans lequel sont ma famille. Mais quand je retourne au Havre, je vois la manière dont le Havre a été bombardé. Et la maison où je suis née est encore debout. Et j'ai été à Caen. J'ai vu comment Caen a été bombardé et Caen a été bombardé de manière complète. Il n'y a pas d'endroit. Tandis que dans le Havre, vous avez des extraits de la vie d'avant et des extraits de la vie nouvelle. Et ça, c'est incroyable ce que ça peut donner. Et je pense que vous pouvez comprendre ça, même sans l'avoir vécu comme je l'ai vécu, moi.
En tout cas, ce que j'ai pu vivre de commun avec vous, Colette Brunschvicg, c'est la beauté de la lumière.
Ah voilà. Et quand par la suite, on a développé la voiture et qu'on est venu, on a quitté le train et pendant les 3 dernières années ou les 4 dernières années, on allait en Alsace en voiture. Et quand on remontait sur le Havre, 200 kilomètres avant d'y arriver, eh bien, il y avait une lumière qui changeait. Et on voyait la mer. Et moi, j'ai compris que la raison pour laquelle on voyait la mer, c'est que la plaque de la lumière sur la mer se reflétait dans les nuages. Et qu'à 200 kilomètres, vous voyez déjà la fin de la Terre.
Mais c'est drôle ce que vous dites là, Colette Brunschvicg, parce qu'on sent à travers vos mots une sorte de gourmandise et de sensualité. On pourrait imaginer, les auditeurs pourraient penser que vous figurez ce que vous nous dites, mais pas du tout. Votre peinture est très conceptuelle. Vous ne figurez jamais rien de la réalité qui s'offre à vous.
Absolument, mais c'est quand même au centre même de ce que je fais.
La vibration de la lumière.
Le fait est que, à cet endroit-là, le sec et le mouillé, la forme et l'informe, apparaissent. Et quand, plus tard, j'ai commencé à m'occuper de la peinture chinoise, j'ai trouvé quelque chose qui m'a énormément intéressée à cet égard, parce que la peinture de paysage primitif des Chinois représente de manière constante le même paysage qui est une montagne avec de l'eau, un torrent d'eau qui sort de la montagne. Et le paysage s'appelle « Rocher et eau ». Ça m'a fait comprendre qu'en réalité, rocher c'est la forme et l'eau c'est l'informe. Et que donc, l'image du réel est là. Et l'image du peintre, le travail du peintre, est de faire sortir la forme de l'informe. Ou que l'informe sorte de la forme.
Donc c'est un travail philosophique, de méditation.
Un travail de méditation.
Qui ne s'apprend pas. Avez-vous appris la peinture, Colette Brunschvicg?
Écoutez, dans cette période de ma vie, de l'enfance, ce que j'ai appris de la peinture, c'est ce que je voyais. Et je dois dire que c'était quelque chose de merveilleux. Pour moi, ça a été un bonheur de naître dans une ville comme cette ville. Elle était d'abord terminale. On voyait l'eau et la terre, la forme et l'informe. On voyait que Le Havre est construit sur l'eau, puisque François Ier a fabriqué cette ville pour sortir de l'Europe, pour sortir de l'Occident. Et il y avait également le haut et le bas, parce que surplombant la ville, il y avait la côte, qui était une grande colline sur laquelle il y avait le phare qui éclairait pour tous les bateaux l'approche de la terre. Et les gens de passage habitaient en bas, et les gens qui étaient là depuis, je ne dirais pas François Ier, mais un petit peu après, habitaient sur les hauteurs. Ils avaient de très belles maisons et étaient en dehors de l'humidité du bas. Et nous, nous étions dans l'humidité du bas, puisque nous étions juste de passage, puisque c'était seulement à la génération de mon père qu'on est allé s'installer là. Et ce qui était vraiment très merveilleux, c'est qu'on allait en haut que lorsqu'on avait été malade. Comme si on allait dans l'Everest, comme si on sortait de l'humidité du bas. Et c'était une sorte de bonheur. Et d'ailleurs, chaque fois j'y repense, puisque je ne vais là-bas que pour aller au cimetière. Ma famille est là-bas, elle repose là-bas, et que le cimetière est en haut également, à partir duquel vous avez une vision extraordinaire de la
Donc
ville.
Donc les morts respirent mieux au Havre, alors.
Comment ?
Les morts respirent mieux au Havre.
Voilà. Et quand on est là-haut, il y a quelque chose qui est près du ciel.
Pourquoi avez-vous quitté le Havre ? C'était pour rencontrer des mouvements artistiques à Paris ?
Non. Nous avons quitté le Havre en 1940.
À cause de la guerre ?
Parce que mon père avait fait la guerre de 14. Et il avait une connaissance de ce qui s'était passé en 14. Et quand les Allemands sont entrés en Belgique, il a dit, bon, ben, il faut se mettre derrière un fleuve. Il n'avait pas réalisé qu'il s'était passé un événement extraordinaire dans le monde, c'est l'invention de l'aviation. Et à l'époque de 1914, il n'y avait pas d'aviation en tant que telle. Donc, chaque fois que vous passiez derrière un fleuve, le fleuve pouvait servir de barrière. Et il avait l'idée qu'il fallait se mettre derrière le fleuve. Il n'y avait pas de pont à cette époque-là. Alors qu'en 1940, à ce moment-là, Les Allemands se sont approchés, ont bombardé Le Havre, et ils ont bombardé la raffinerie de Port-Jérôme. Et à ce moment-là, la raffinerie de Port-Jérôme, au moment où nous avons décidé de traverser le fleuve, il fallait traverser avec un bac. Il n'y avait pas de pont. Il y avait donc des files absolument incroyables de voitures pour arriver à traverser la Seine, avec les avions qui bombardaient, et la raffinerie de Port-Jérôme en flammes. Et à ce moment-là, j'ai vu, le ciel est devenu noir. Et je n'oublierai pas facilement cette lumière, parce qu'on l'a vu à la télévision quand on a bombardé les choses de pétrole, que le noir apparaissait en plein jour. Et ça, je l'ai vu des visus quand Port-Jérôme a pris feu.
D'ailleurs, ça va se retrouver dans votre peinture plus tard.
Voilà. Ce passage du noir, cette traversée du noir, a été pour moi essentielle. Et la chose était vraiment extraordinaire parce que mon père avait été quelqu'un qui avait quand même un grand tonus. Et derrière chaque... On a suivi, donc, on a fait cette marche qui était historique de la descente avec des matelas pour empêcher le mitraillage et tout d'un coup, le monde s'est mis à chavirer de manière extraordinaire. Mais en 39, j'avais déjà le sentiment que ça allait arriver. Je l'ai pressenti, ça ne m'a pas étonné, mais brutalement, le monde qui était tranquille est devenu un monde sauvage. Pour boire de l'eau, il fallait payer des sommes absolument extraordinaires, et on a suivi la côte avec la voiture remplie d'objets qu'on essayait de sauver. À chaque fleuve, derrière chaque fleuve, mon père louait un petit appartement. Ça ne durait pas très longtemps. C'est ainsi qu'on a loué derrière la Loire, derrière la Garonne, et qu'on est arrivé devant les Pyrénées, où on a rencontré énormément de gens qui avaient fait ce mouvement-là.
Quand avez-vous fait votre premier tableau, Colette Brunschwig?
Avant de faire un tableau, j'ai fait quelque chose qui, en y réfléchissant, m'a paru très étonnante, que j'ai commencé dans mon enfance. J'ai fait un livre qui était une sorte de dessin avec les textes, c'est-à-dire ce qu'on fait maintenant, sur le Grand Mône. J'ai lu le Grand Mône, j'avais donc 13 ans, 12 ans, ça m'a énormément parlé. Pourquoi ça m'a parlé? Parce qu'il parle de la Normandie. Et que il a écrit ce texte-là à partir de la campagne normande que je connaissais. Et quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression que le livre dans lequel je me suis promenée était le livre où je me suis promenée véritablement.
C'est drôle parce que 60 ans plus tard, vous allez recommencer la même opération.
Voilà.
Artistique, intellectuel, philosophique et poétique,
voilà.
Avec Paul Celan, puisque voilà. Vous allez faire un compagnonnage
voilà.
Sous le titre « Caillou blanc » pour Paul Celan.
Voilà, et bien, vous avez compris que c'est à l'origine de ça. Et ce Grand Mône, vous savez qu'Alain Fournier n'a fait qu'un livre. Il a été tué après. C'est-à-dire, c'était un exemplaire unique. Ça, c'était un hasard. Moi, je ne le savais pas.
Et Paul Celan s'est suicidé.
Et Paul Celan a été de la même nature, avec d'autres raisons. Il a été tué à la guerre de 14. Et dans l'œuvre du Grand Mône, et il y avait tout ce que j'avais connu. L'histoire avait une certaine mélancolie. Et le fait que c'était qu'un seul livre avait aussi une certaine mélancolie. Je ne sais pas ce qui m'a conduit à aller à la première chose qui, en fait, a été l'image prototype d'un monde qui était en train de clore et dont je voulais garder une trace.
En tout cas, nous ne savons pas à quoi ressemblaient les premières œuvres que vous avez faites, Colette Brinjvig, mais nous savons, par exemple, ce que vous avez fait dans ce compagnonnage avec Paul Celan, et on voit bien que l'écriture est au cœur même du tableau.
Voilà, exactement.
Quelle est votre technique? Parce que si je prends, par exemple, un tableau que j'ai devant les yeux grâce au catalogue, qui est celui-ci, où pour les auditeurs, on voit donc une toile en très grande partie noire, avec des aplats de blanc qui font apparaître comme des oasis de sens avec des fragments du texte de Paul Celan. Est-ce que vous écrivez le texte de Paul Celan d'abord sur l'espace du tableau, puis vous recouvrez de noir? Comment travaillez-vous?
Je vois que vous avez une vraiment grande expérience des problèmes visuels. C'est-à-dire, vous allez immédiatement au cœur de la chose.
Non, mais c'est quand on regarde vos tableaux.
Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Le travail, pour les gens de ma génération, nous avons vécu des choses que personne n'avait vécues jusque-là. En particulier, l'invention de la photographie. Et l'invention de la photographie implique que la peinture va avoir un problème d'identité par rapport à ce que va représenter la photographie. Est-ce que c'est la fin de la peinture? Est-ce que la peinture doit se transformer? Et de quelle manière elle doit se transformer? Alors la première chose qui est arrivée dans la photographie, c'est que il n'y avait plus de troisième dimension dans la perspective de la chose. Jusque-là, l'impression des caractères était au plomb. Les plombs étaient une troisième dimension. Et avec la photographie, vous aviez la pellicule universelle. C'est-à-dire, une pellicule, ça voulait dire pratiquement pas de troisième dimension. La chose la plus plate possible. Ça, cet événement-là, j'ai écrit beaucoup là-dessus, et peut-être grâce à vous, je vais essayer de... Parce que j'ai écrit des kilos de choses là-dessus. Peut-être par le fait que vous m'obligez à vous expliquer ces choses, j'arriverai peut-être à mettre sur pied ce que j'ai écrit là-dessus. Mais je pense que le meurtre de la peinture par la photographie n'a pas été assez décrit. Pourquoi? Parce que la photographie s'est mise à photographier la peinture. Et la peinture a une troisième dimension. Mais une fois qu'elle est photographiée, elle n'a plus de troisième dimension.
La peinture que vous faites, donc vous faites aussi beaucoup de dessins, hein, Colette Brinjvig. Oui. Mais la peinture que vous faites, peu importe le format, mais il n'y a pas d'horizon ni de perspective. C'est à nous qui regardons votre peinture de trouver. Votre peinture, par exemple, me fait un peu penser à l'impression que peut nous procurer des tableaux de Rothko.
Voilà.
C'est-à-dire que, en apparence, tout est plat.
Voilà.
Mais la profondeur, elle peut se découvrir grâce à un cheminement intérieur, grâce à la matière de la couleur, grâce à la profondeur de la matière ou de la couleur.
Voilà.
Et vous découpez des champs dans l'espace du tableau.
Voilà. Et là, c'est exactement en quoi Rothko a quelque chose de commun avec moi, c'est que nous avons travaillé, et tous les peintres de ma génération ont eu cette problématique de savoir si la troisième dimension survivait à l'invention de la photographie. Alors, vous me demandez comment j'ai pas le lien qu'il y avait avec Celan. Il s'est trouvé et ça serait trop long à raconter, que j'ai rencontré les commanditaires de cette revue merveilleuse qui s'appelait Le Nouveau Commerce. Et Le Nouveau Commerce, avec André Dalmas et Marcel Fonfred, que vous avez certainement eu l'occasion de rencontrer. Les cahiers du Nouveau Commerce étaient marqués par l'imprimerie au plomb. Alors l'imprimerie au plomb par rapport à l'imprimerie photographique impliquait une troisième dimension, parce que le plomb pénètre à l'intérieur du papier. Il se trouvait également que j'ai eu l'occasion de rencontrer Marcel Fonfred et André Dalmas. Et à cette époque-là, je travaillais dans la galerie Clivage. Et la galerie Clivage, par leur intermédiaire, a imprimé La Rose de Personne en troisième dimension. Le hasard voulant que je rencontre Marcel Fonfred, je lui ai demandé si éventuellement elle pourrait me donner des feuilles supplémentaires ratées de l'imprimerie en troisième dimension de La Rose de Personne. Elle a très gentiment fait, elle m'a apporté sur... Il y avait un exemplaire de luxe avec un papier épais et un exemplaire plus ordinaire, mais tout ça était au plomb. Donc en troisième dimension. Et c'est à partir de ça que je voulais travailler en troisième dimension sur un texte qui était écrit au plomb. Alors le hasard a voulu que Marcel Fonfred était quelqu'un d'extraordinaire, avec à la fois une liberté d'expression, une invention. Elle m'a apporté donc ses papiers, et au bout de 2 mois, elle m'a téléphoné pour me demander ce que j'en avais fait. Alors je lui ai dit que j'ai fait effectivement un collage avec l'écriture en profondeur et la peinture en surface.
Donc vous inventez, vous expérimentez depuis maintenant combien, 6 décennies,
oui.
À chaque fois des méthodes nouvelles pour renouveler votre art.
Pour renouveler.
Vous n'êtes jamais contente de ce que vous faites, même si depuis les années 50, vous exposez dans les plus grandes galeries. Et vous êtes reconnue pour votre travail. Mais en fait, à chaque fois, c'est un nouveau champ d'expérimentation.
Voilà, avec la même idée. C'est-à-dire, en quoi la peinture doit-elle continuer ?
À exister, tout
à
simplement.
À exister, tout simplement. Elle a été débarrassée de sa destinée de reproduction. Maintenant, on peut reproduire merveilleusement, n'est-ce pas ? Moi, je connais plein de gens, mais... Dans ce travail de reproduction automatique, il y a une perte absolument incroyable.
Mais est-ce que la lecture de Paul Celan et la fréquentation de certains amis que vous avez eus dans votre vie, par exemple Emmanuel Lévinas ou Jean Bollack, pour n'en citer que 2, ne vous ont pas amené à essayer non pas de représenter le néant, parce qu'il n'est pas représentable, mais en tout cas de nous... Peut-être de nous inciter à côtoyer l'idée du néant par certaines de vos œuvres, Colette Brunschvicg.
C'est tout à fait de ça qu'il s'agit. Étant donné que précisément André Dalmas et Marcel Fonfred, je les ai connus par l'intermédiaire de Manuel Lévinas, dont j'étais la voisine pendant 40 ans et dont j'ai eu le privilège d'écouter son enseignement tous les samedis. Il avait la chose ouverte.
Oui, il faisait un séminaire ouvert.
Il enseignait véritablement.
Alors, vous sortez de votre sac des petites notes. Vous
voilà,
avez pris des
alors
notes.
Je voulais simplement vous dire une note que j'ai retrouvée et qui dit véritablement ce que j'ai essayé de faire. Maintenir la place découverte vide, ouverte. Et ça, c'est André Duboucher qui l'a dit, que j'ai aussi connu. Et j'ai vécu quelque chose de merveilleux. J'ai vécu une expérience à peu près analogue, par exemple, d'une survie à une guerre atomique. Vous êtes caché, vous avez survécu, Et puis vous sortez, il n'y a plus grand monde. Mais il y a encore un peu de monde. Et le monde qu'il y a est tellement émerveillé d'avoir survécu qu'il n'y a plus aucune gradation, ni sociale, ni économique, ni quoi que ce soit. Tout le monde parle à tout le monde. Trop heureux de ne pas se retrouver seul. Eh bien, j'ai connu ça.
Vous revendiquez-vous comme artiste juive ?
Pas forcément du tout, à moins qu'on considère que la définition juive représente quelque chose en soi, dans l'histoire de la civilisation. Le fait qu'il y ait cette coupure extraordinaire qu'il y a eu pendant très longtemps entre l'Orient et l'Occident, et qui a commencé à se réduire au XVIIe siècle, par pénétration de l'Orient et de l'Occident. La zone intermédiaire dans laquelle se situe le pays d'Israël, entre l'Orient et l'Occident, toutes ces choses-là ont un lien. Vous ne pouvez pas le nier. Et ce n'est pas parce qu'il est pris dans des zones politiques ou autres qu'on peut ne pas le comprendre de cette manière-là.
En tout cas, une artiste de l'après-Shoah.
Et voilà, absolument. Une artiste de l'après-Shoah, pas seulement de l'après-Shoah, mais parce que l'après-Shoah a été à peu près correspondu à la fin de l'image.
Donc il y a comme un lien quand il n'y a plus rien.
Voilà. Donc la fin de l'image, c'est après la Shoah. Et ça, dans cet ordre-là, je pense qu'il y a une liaison.
En tout cas, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, on l'aura compris, Colette Brunswick, et notamment par votre faculté de renouvellement de votre propre discipline. Il se trouve que, je ne sais pas quand ça a commencé, mais en tout cas, on peut voir depuis 2-3 ans, dans les galeries qui vous exposent, tout d'un coup, une nouvelle Colette Brunswick. C'est comme si vous aviez découvert la couleur. Comme si vous aviez besoin de saturer même ces couleurs et de les placer comme des espèces de reflets de notre âme, en quelque sorte, sur les tableaux. Que se passe-t-il avec ce renouveau ?
Écoutez, le fait de durer comme peintre a des avantages et puis des inconvénients. Et les avantages, c'est qu'on a un grand laps de temps pour pouvoir être conscient du mouvement de la chose. Moi, j'ai une définition du peintre, de l'artiste. L'artiste, c'est pas autre chose que quelqu'un qui, au moment où il naît, pose la question « Où suis-je ? Et quelle heure est-il ?» Vous voyez ? C'est ça. Ça, c'est vraiment... Le reste n'a aucune espèce d'importance. C'est-à-dire, et la chose première avec laquelle j'ai compris ça, c'est tout de suite après la guerre. Et même, je dirais qu'on m'a demandé au musée d'art moderne de la ville de Paris si, vu mon expérience sur un grand temps, je voulais bien leur donner une aide pour une exposition de la peinture de l'après-guerre. Et bon, ça n'a pas encore pris forme, parce que ça s'est heurté à des grandes difficultés, mais malgré tout, on a commencé, avec la personne avec laquelle j'ai commencé à parler de ça, il m'a posé la question, à partir de quand vous commenceriez l'après-guerre ? Alors moi, j'ai dit 1950. Alors il m'a dit... 1945, c'était la fin de la guerre. Pourquoi vous mettez 5 ans comme ça, sans problème ? J'ai dit, mais c'est parce que pendant 5 ans, il y a eu une sorte de vide. Plus personne ne savait qu'est-ce que c'était. Il y a eu un silence. Et même dans certaines... je ne sais pas si ça a gardé encore ce titre-là, dans l'histoire de l'art, ces cinq années-là ont été appelées les années blanches. Et qu'est-ce que c'était les années blanches ? C'était l'expérience du vide que nous avons eue. Et le choix de savoir si nous étions accordés au vide, si nous admettions qu'il y avait le vide et qu'il y avait une coupure, ou s'il fallait continuer au-delà du vide, qui a été le cas de Celan lui-même, et qui était donc le cas général. Lui, il a vécu selon sa propre idée, et nous, Rothko et des gens comme moi, et tous les gens qui ont continué à peindre, ont vécu de la même chose à un autre niveau. Ouais. Quelque chose avait éclaté, le noyau atomique avait éclaté, et il y avait donc deux choses qui ne coïncidaient plus. Il y avait tout un côté qui explosait et puis un autre côté qui s'anéantissait. Alors, j'ai quand même eu quelque chose de merveilleux dans ces moments difficiles, c'est que peut-être, est-ce que c'est parce que je le désirais, mais j'ai rencontré des gens qui m'aidaient à faire le chemin. Au début de mon travail, j'ai commencé à travailler en arrivant à Paris. Je suis allée à l'Académie Julian, parce que l'Académie Julian était quelque chose qui était connu. Je suis d'une famille où il ne s'intéressait pas à l'art du tout. Je n'avais personne pour me... Mais je savais historiquement que l'Académie Julian était l'endroit où on avait appris autrefois. Ben, c'était une véritable catastrophe. Mais c'était la fin complète de quelque chose. Mais je suis allée voir comment c'était. Auprès d'un certain temps, je suis après allée en me disant « Maintenant, il faut que je trouve quelque chose de plus sérieux. » Et j'ai donc trouvé un enseignement qui était parallèle à l'enseignement des Beaux-Arts, mais qui était libre, qui était sorti. On n'avait pas besoin de faire un examen d'entrée aux Beaux-Arts. Le professeur s'appelait Souverbi, il était membre de l'Institut, et il avait un enseignement personnel qui s'appelait la section d'or. Et dans la section d'or, il y avait à peu près le même public que à l'Académie Julian, c'est-à-dire des gens qui étaient là pour passer le temps.
Il ne devait pas y avoir beaucoup de femmes.
Il n'y avait pas beaucoup de femmes, mais il y avait un grand mélange. On ne savait pas si c'était des soldats américains qui n'avaient rien à faire, ou si c'était des soldats allemands qui se cachaient, ou s'il y avait toute une sorte absolument incroyable. Et effectivement, il y avait un grand monde. Dans la section d'or, il y avait ce même monde, mais à l'intérieur, il y avait vraiment des gens qui étaient là pour apprendre quelque chose. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a enseigné et qui m'a expliqué un peu ces choses. Et il y avait quelques-uns qui se sont reconnus comme étant là pour trouver la technique qui pouvait développer ce qu'ils étaient en train de sentir. Il s'appelait Pierre Courtin. Il était graveur, il était paysan et autodidacte absolu. Et il était plus âgé que moi. Et il avait connu l'art d'avant-guerre. Il était au Quartier Latin. Il a connu toute la période de Sartre, de Simone de Beauvoir, de toute cette période-là. Et il me disait, il m'a expliqué et il a commencé à m'enseigner. Et il m'a dit qu'en réalité, il y avait très peu de peintres. On ne peut pas imaginer. La quantité de peintres que nous avons connus était quelque chose de tout à fait nouveau. Et il m'a expliqué qu'à Saint-Germain-des-Prés, avant la guerre, eh bien, quand il y avait un peintre qui arrivait, on disait « Ah, il y a un peintre maintenant qui est arrivé là ». C'est donc qu'il y avait très peu de peintres et encore moins de femmes peintres.
Et aujourd'hui, Colette Brunschvicg, vous peignez tous les jours ? Ces tableaux si colorés comme une sorte de nouveau cycle.
Je continue.
Avec beaucoup de rouge, beaucoup de jaune, beaucoup d'ocre.
Écoutez, j'essaye de, comment dirais-je, de ne pas me laisser enfermer dans une forme qui devrait prendre forme à un niveau de marketing.
Vous êtes contre le marketing.
Ben, ça empêche la liberté. Je veux dire, beaucoup de mes amis sont morts par soumission au marketing. C'est-à-dire que, si vous voulez, si pour arriver à se faire voir, il s'agit d'en faire en grande quantité, sur la demande, en grande taille, pour que ça se voit de loin. Il y a de quoi mourir. S'ils sont morts plus jeunes que moi, ils avaient charge d'âme, ils étaient quelquefois, ils avaient des obligations financières que, étant donné que moi je n'avais pas de responsabilité à ce type-là, j'ai pu refuser cette chose. Et encore maintenant, j'ai du mal. Je pense que une des formes de la liberté, c'est ça. Et une des formes de la non-reconnaissance que j'ai, et à la fois une chose très étrange, j'ai pu arriver à avancer très doucement, c'est-à-dire à exister quand même jusqu'à maintenant, et être conduite par non pas la concurrence, mais quelque chose d'autre qui ressemblait à quelque chose de très ancien, c'est-à-dire le compagnonnage. J'ai connu ça. C'est-à-dire que pratiquement encore jusqu'à maintenant, j'ai le lien de compagnonnage que j'ai avec les gens n'est pas un lien artificiel pour faire une école, mais simplement un lien affectif, il en faut deux, qui m'amène chez Colette Alindy, qui disent à Colette Alindy, voilà, vous pouvez la prendre, elle sait son
métier.
Donc
c'était votre première galeriste ?
C'était ma première galeriste, et c'était la première galeriste qu'il y avait à Paris à ce moment-là. Et avec, dans cet endroit-là, il y a eu le passage merveilleux entre ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après la guerre.
Enfin, encore aujourd'hui, vous exposez et donc vous travaillez tous les jours pour la prochaine exposition.
C'est quelque chose comme ça. Et ça a même quelque chose de... Je me dis que quand même, c'est tout à fait anormal. Hein. Normalement, je devrais maintenant terminer et penser à la dernière exposition.
Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Colette Brunschvicg. Je rappelle que votre travail, votre œuvre, on peut la découvrir dans de nombreuses galeries et aussi dans des musées, puisque vous êtes exposé par exemple au Centre Pompidou et dans d'autres endroits. Vous trouverez tout ça sur notre site. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, merci à Philippe Bredin, à Samuel Bernard, Corinne Amard, Élodie Royer et Anne Kobilac. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.